Nos vamos para Ágora porque tienen una invitada muy, pero muy especial. Adelante, Llorel y Juan Diego.
Pues sí, Julio, la verdad es que se trata precisamente de Hélène Chartier. Ella, pues, es una de las líderes y, por supuesto, también voceras en este Día Mundial de las Ciudades, en esta cumbre cuya sede es la capital del país y donde se ha hablado del 80% de la población latinoamericana que prácticamente hoy vive en las ciudades. ¿Cómo lograr que éstas sean más humanas, más verdes y, sobre todo, buenos vivideros? Pues ella, nuestra invitada, es ingeniera civil, directora de urbanismo y diseño del C40, una red que agrupa a las principales ciudades del mundo comprometidas con la acción climática.
Y por lo mismo, Juan Diego y Juan Pablo, preguntémosle a Hélène y arranquemos con ese enfoque, porque ella es experta en urbanismo, como ya lo decía Juan Diego, pero habla especialmente de esos territorios que son sensibles al cambio climático. Juan Pablo, entonces, preguntémosle que Colombia, como un territorio sensible al cambio climático, ¿en qué sentido debería estar esa reorganización, esa redistribución de los barrios y reconstrucción de las ciudades?
Madame Hélène Chartier, bienvenue à l'antenne de la W Radio, bonjour.
Bonjour.
Bon, tout d'abord, on voudrait savoir, selon vous, pour un pays comme la Colombie, où il y a une grande menace de la montée de l'eau de la mer, mais aussi des problèmes, de tous les problèmes qui viendront avec le changement climatique, quels sont les meilleurs conseils pour s'adapter en tant que ville au changement climatique?
Oui, je pense qu'il y a deux choses notamment qu'il faut faire. La première chose, c'est vraiment d'avoir les informations et les prévisions, donc de planifier la ville en sachant parfaitement comment les choses vont se passer. Donc avoir des détails d'informations sur les chaleurs urbaines, sur les risques d'inondation, sur les risques d'éboulement de terrain, et finalement de planifier la ville pour mettre des règles de construction très spécifiques, par exemple dans les zones d'inondation, de faire attention à ce que soit on ne construise plus, soit on construise avec certaines règles particulières. La deuxième chose qui est très importante, c'est vraiment de travailler sur la nature en ville. On sait que la nature, et notamment le fait d'avoir des sols perméables, le fait d'avoir des arbres et des plantes, apporte de la fraîcheur, mais aussi permet d'avoir de l'eau qui s'infiltre finalement dans les terres et permet de lutter à la fois contre les îlots de chaleur urbaines et à la fois contre les inondations. Donc, revégétaliser la ville, c'est extrêmement important, et on voit des villes, Paris, Barcelone, Bogota, vraiment accélérer dans ce mouvement, et notamment sur tout ce qui est ombrage, de travailler pour que les villes, à travers les arbres, les habitants puissent marcher à l'ombre, etc. Medellín, actuellement en Colombie, a été une ville très pionnière sur ce sujet.
Oui, je vous prie une minute, je fais la traduction de vos propos. Bueno, nos dice la señora Chartier que ella esencialmente tiene dos elementos, dos consejos principales para quienes administran las ciudades. Uno, tener todas las informaciones posibles a la mano y sobre todo las previsiones. ¿Qué es lo que va a pasar en una ciudad para planificar sobre ello? Para tener identificados los mapas de calor urbano, para saber dónde están las zonas de inundación, las zonas en donde puede ocurrir deslizamientos. Y con esa información en la mano, crear unas normas de construcción muy específicas, pero muy específicas, que permitan decidir y también sancionar de la forma que permita hacer una ciudad más atenta y pendiente al cambio climático. Y por otro lado, dijo, hay que trabajar sobre la naturaleza y en la ciudad. Se necesitan suelos permeables que permitan el flujo de agua, árboles, plantas. Esto es lo que le va a garantizar también una cierta frescura a la ciudad. Revegetalizarla. Habla ella del ejemplo de París, de Barcelona, de Bogotá y sobre todo de Medellín, que dice ella fue una de las ciudades pioneras en hacer este tipo de ejercicios para revitalizar el verde.
Aterricémoslo ahora a la gente que nos escucha en el carro, en el bus, en el taxi. Y la pregunta es, ¿cómo ve a Bogotá hoy frente a las otras grandes ciudades en materia de eso? De tratar de recuperar lo verde, la sostenibilidad y, por supuesto, lograr... Aquí vivimos en disputa permanente entre progreso versus protección del medio ambiente. ¿Cómo lograr que esas dos cosas se concilien?
À Bogotá, on vit un problème qui se passe partout dans le monde. Une sorte d'affrontement entre le chercher qu'une ville puisse grandir face à ceux qui veulent la protection de tout ce qui entoure la nature, qui entoure la ville. Pour vous, comment gagner ou comment créer un équilibre entre la construction et la protection?
Moi, je pense que ce qui est très important, on sait que les villes à travers le monde, elles grandissent 50% plus vite que leur population. Et que si on fait rien, les métropoles à travers le monde seront 3 fois plus grandes d'ici 2050. Donc c'est absolument important de contenir l'expansion urbaine, ce qui veut dire de créer des règles d'urbanisme pour empêcher l'expansion des villes dans des endroits qui sont naturels ou qui sont un peu dédiés à l'agriculture. Et c'est important de créer des logements à l'intérieur de la ville dans une forme de densification légère, comme on le voit à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et après, on voit que, et ça revient à ce que je disais avant, on voit que la ville peut intégrer elle-même de la nature. Et on l'a vu vraiment dans des villes, je prends Paris par exemple, qui est la ville où j'habite, 50% des parkings de surface ont été enlevés pour remettre de la verdure, et ça a vraiment transformé la ville. On a des places entières qui sont devenues des forêts urbaines, et ça vraiment transforme la ville. Donc cette relation à la nature, on peut aussi l'avoir dans la ville, et on voit plein de villes qui travaillent sur la biodiversité, sur ces sujets-là. Donc empêcher ou en tout cas limiter l'expansion urbaine pour protéger la nature qui nous entoure et qui nous protège, et qui est extrêmement importante d'un point de vue captation des émissions, mais aussi réintroduire la nature dans la ville. Donc il faut des règles d'urbanisme, travailler sur ces deux éléments.
Bueno, pues nos dice que, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Juan Diego, con base en lo que usted pregunta, es la dinámica de las ciudades. Y es que las ciudades tienden a crecer un 50% más rápido que la población que las habita. Es decir, de aquí al año 2050, las ciudades más grandes del mundo podrían llegar a ser 3 veces más grandes, más extensas, y eso hay que contenerlo. Hay que encontrar la forma de contener la expansión urbana. Y esto se logra a través de reglas, de normas, de leyes que eviten que la ciudad siga invadiendo los espacios que pertenecen a la naturaleza. Eso se logra a través de una densificación mayor, pero también, dice ella, integrando la naturaleza en la ciudad. Y nos da el ejemplo de la ciudad de donde ella viene, París. Los parqueaderos que estaban en la superficie fueron eliminados, los volvieron subterráneos, y sobre ellos se pusieron pastos, se sembraron árboles. Es decir, hay que apostar porque los espacios duros de la ciudad puedan convertirse en espacios naturales. Eso no solamente cambia el entorno, mejora la calidad de vida, sino también le ayuda al ambiente.
Juan Pablo, yo considero que esta nueva planificación de las ciudades debe empezar por enseñarse desde las facultades de arquitectura y de ingeniería. ¿Se está haciendo esto en las universidades?
Cette idée que vous venez de nous raconter de mettre la ville en consonance avec la verdure, avec le vert, c'est quelque chose sur lequel on est en train de préparer tous les architectes, tous les urbanistes, ou y a-t-il encore quelques-uns qui veulent le contraire?
Je pense qu'il y a une tendance positive. C'est clair, on voit les architectes, les urbanismes travailler sur tous les espaces, les toitures, les espaces publics. Donc on voit vraiment ce travail être fait, et on voit les villes prendre des règles. Il y a beaucoup de villes, par exemple, dans les règles d'urbanisme, qui maintenant obligent les promoteurs à intégrer 20% d'espaces perméables ou d'espaces verts dans leurs projets. Donc les villes prennent des politiques, et les architectes se forme à ça. Ceci étant dit, on sait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, et il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, à la fois dans la manière dont on va éduquer nos futurs architectes et urbanistes, et à la fois comment on va les contraindre à aller dans cette direction. Et c'est parfois pas toujours les urbanistes et les architectes la limitation, hein. C'est aussi les promoteurs et l'argent qui veulent maximiser les mètres carrés. Donc il faut aussi prendre les règles et les politiques qui vont permettre d'accélérer ces sujets-là.
Madame Sartier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui à l'antenne de la W Radio.
Merci à vous. Au revoir.
Bueno. Au revoir. Nos dice que pues ella ve una tendencia positiva y eso se ve en los techos verdes, eso se ve en los espacios públicos cada vez más verdes. Eso sí, todo depende de las ciudades. Cada ciudad tendrá que determinar sus reglas y unas reglas que permitan que se integre el espacio verde con el desarrollo urbano. Ahora, nos dice ella, tal vez los que tienen más claro el asunto sí son los arquitectos, los urbanistas, pero los promotores y sobre todo quienes se dedican al negocio de la construcción, lo que les interesa es maximizar el metro cuadrado. Y ahí sí hay un choque.